Votre visite des collections du musée débute ici. L'îlot qui vous fait face, ainsi que ceux qui suivent, vont vous permettre de mieux comprendre comment vivaient les hommes et les femmes installés à Charavine, sur les bords du lac, à la fin du Néolithique.
À ce propos, qu'est-ce qui change au Néolithique ?
Beaucoup de choses. Tout d'abord, un peu d'étymologie. Le terme « néolithique » est formé de « néo », c'est-à-dire de « nouveau », et de « lithos », qui signifie « pierre ». La pierre, et surtout la pierre polie, c'est justement ce qui caractérise cette toute dernière période de la préhistoire, car c'est au Néolithique que l'outillage en pierre polie, et notamment les silex, se diversifie et se généralise.
Mais ce n'est pas le seul changement, au contraire. De la fin du 6e millénaire à 2500 avant notre ère, de nombreuses innovations apparaissent. L'agriculture se sédentarise, la domestication du bétail se développe et l'artisanat, avec la poterie notamment, permet de produire de plus en plus d'objets.
Le Néolithique, c'est aussi l'apparition des premiers villages.
Et justement, à la fin du Néolithique, sur un seul et même site, à Charavine, ont lieu deux implantations humaines successives, séparées par une phase d'abandon d'une cinquantaine d'années.
Les premiers habitants du site de Charavine s'installent il y a 4700 ans à l'actuel lieu-dit les Baigneurs. Ils viennent probablement d'un village proche qu'ils ont abandonné afin de s'installer sur la plage de craie qui borde le lac.
Son niveau est alors assez bas et le paysage alentour est majoritairement forestier. Ce sont d'ailleurs ces forêts de sapins, de hêtres et autres chênes que les premiers occupants défrichent. Car le Néolithique voit également l'essor d'une civilisation du bois. Ce dernier matériau permet de fabriquer des outils et d'édifier des maisons.
À Charavine, on en compte 6 lors de la première occupation, pour une communauté estimée à environ 30 ou 40 habitants, dont vous allez découvrir maintenant le quotidien.
Une lame de pierre polie, intégrée en saillie à un manche de bois. Pas de doute, vous voici devant l'un des outils essentiels de l'époque néolithique, la hache.
Celle-ci est alors d'une grande utilité. Elle permet de défricher la végétation aux alentours du village et surtout d'abattre les arbres nécessaires à l'édification des maisons.
Ce sont d'ailleurs ces abattages qui nous renseignent sur les périodes d'occupation du site. Ils ont été datés grâce à la dendrochronologie, qui est une méthode de datation basée sur la croissance annuelle des cernes de bois.
Mais revenons à nos haches, et plus précisément à leurs lames. Celles-ci sont façonnées et polies dans des roches de couleur verte à noire, comme l'éclogite ou l'omphacite, vraisemblablement importées des Alpes italiennes, là où leur gisement affleure.
Si les habitants de Charavine ne produisent pas ces lames, ils disposent cependant d'outils pour les réaffûter, à l'image d'un polissoir retrouvé, confectionné dans un grès local, la molasse. Cela se comprend aisément, tant les lames s'émoussent vite à l'usage, voire se brisent sous les chocs répétés.
Comme vous pouvez le voir, les manches des haches mises au jour possèdent à leur extrémité une mortaise. Ce terme bien connu des menuisiers désigne la cavité qui accueille le tenon, c'est-à-dire l'élément qui vient s'y insérer. Façonné en bois de serre, ce tenon est solidaire de la lame autour de laquelle il forme une gaine.
Plus qu'un simple système de fixation, cette gaine à tenon permet également d'amortir le choc lorsqu'un coup est porté.
Sur le site de Charavine, ce type d'emmanchement est ultra majoritaire. Sur 20 haches mises au jour, 19 présentent cette gaine à tenon. La dernière possède en revanche un emmanchement direct, c'est-à-dire que la lame est directement insérée dans le manche. À première vue, vous voici devant un simple morceau de bois. Et pourtant, en l'observant de plus près, vous remarquerez que l'une de ses extrémités a été taillée afin de réduire son diamètre initial.
Cette partie plus fine est un tenon. Comme vous l'avez vu au commentaire précédent, le tenon est destiné à s'insérer dans la cavité d'un autre élément par assemblage.
Ce pieu à tenon, à l'instar d'autres pièces de menuiserie présentées ici, témoigne du savoir-faire des habitants du site dans le travail du bois.
Ce matériau est essentiel pour la fabrication des outils, mais aussi pour l'édification des maisons. À Charavine, cependant, l'utilisation du sapin, du frêne ou de l'aulne pour la construction pose question. Le choix du chêne, doté d'une meilleure résistance à l'eau, aurait été plus judicieux.
Les pieux jouent un rôle primordial dans l'élévation des maisons. Pour assurer les fondations, ils sont enfoncés dans la craie lacustre grâce à un phénomène déjà connu des habitants d'alors, la tixotropie.
Ce terme, dérivé du grec tixis, soit action de toucher, et tropos, qui se tourne vers, désigne la technique qui consiste à enfoncer par rotation un corps solide dans un sol devenant meuble sous la pression, en l'occurrence le sol lacustre. Lorsque le mouvement s'interrompt, le sol se fige de nouveau, assurant la stabilité du pieu.
En Europe continentale, le néolithique est donc, plus qu'un âge de la pierre polie, un âge du bois.
C'est d'ailleurs ce que démontrent les sites de fouilles en milieu subaquatique, qui garantissent une excellente conservation de ces matériaux organiques.
Pour mieux comprendre ce phénomène, appuyez sur la touche verte de votre appareil.
Vous l'avez certainement remarqué depuis le début de votre visite. Les objets mis au jour sur le site présentent un état de conservation exceptionnel. Ce petit miracle est dû aux conditions d'enfouissement.
En effet, l'immersion dans l'eau permet d'éviter la dessiccation des objets et des matériaux organiques. D'une certaine façon, l'eau maintient la structure fibreuse de ces objets en bois, en cuir ou en tissu, garantissant ainsi une conservation exceptionnelle.
Attention cependant, et comme vous l'avez vu avec la pirogue monoxyle présentée dans l'entrée, lorsque ces objets sont sortis de leur milieu d'enfouissement, il convient de les traiter rapidement afin d'éviter qu'ils ne se dessèchent et donc ne se désagrègent.
Les matériaux inorganiques, comme les céramiques, les métaux ou les roches, sont également et globalement mieux préservés des affres du temps lorsqu'ils sont immergés.
Pour quelle raison ? Car le milieu subaquatique est un milieu immobile, comme figé, qui empêche toute destruction liée au choc, à l'érosion ou à une faune composée d'animaux fouisseurs. De plus, dans l'eau, les métaux s'oxydent moins rapidement qu'à l'air libre.
Les couches d'enfouissement lacustre ne nous renseignent pas seulement sur les activités humaines. Elles conservent également des restes d'espèces végétales et animales qui nous permettent de décrire les écosystèmes passés. À sa forme, vous aurez certainement deviné la destination de cet objet, la chasse.
Eh oui, au néolithique, les habitants des berges du lac s'adonnent nécessairement à cette activité afin de compléter leurs besoins en protéines animales.
L'arc, accompagné de ses flèches, constitue l'outil idéal pour chasser le gibier que l'on retrouve dans les forêts alentour.
Celui-ci, long d'1,30 m, a été fabriqué dans une branche d'if. En son milieu, au niveau de l'encoche de guidage de la flèche, vous pouvez distinguer des traces de ficelles qui attestent la présence d'une poignée.
Cet arc a été reproduit à l'identique à des fins d'expérience. L'objectif était de savoir quelle était sa portée. Résultat, on estime qu'il permettait de stopper du petit gibier, à l'aide de flèches à pointe de silex, jusqu'à une distance de 25 mètres.
La principale proie des chasseurs est cependant d'un autre calibre, puisque l'animal le plus chassé à cette époque demeure le cerf. Il faut dire que ce dernier fournit à la fois des bois et des peaux, nécessaires à la confection d'outils, mais aussi de grandes quantités de viande.
Le tableau de chasse inclut cependant d'autres animaux, de toute taille. Ainsi, quelques restes d'ours ont été retrouvés, ainsi que des aurochs, des renards, des blaireaux et des sangliers.
Voici l'un des outils que le ramassage des bois de serre, qui chute une fois par an, permet de façonner. Il s'agit de la pioche.
Pour être plus précis, vous avez devant vous une tête de pioche. Celle-ci a été taillée directement dans le bois de l'animal, puis biseautée, afin de mieux s'enfoncer dans le sol. Comme vous pouvez le voir, elle présente à son extrémité un trou dans lequel était inséré un manche en bois.
C'est ce manche que les habitants du site empoignaient afin d'ouvrir la terre, puis d'y semer les graines.
En effet, depuis le 5e millénaire avant notre ère, l'agriculture est devenue l'un des principaux moyens de subsistance des communautés néolithiques.
Sa systématisation entraîne notamment la sédentarisation. Il convient en effet de vivre non loin de la zone de production agricole. Pour quelle raison ?
Parce qu'être cultivateur demande du temps et du travail. Il faut d'abord préparer la terre afin de la rendre fertile en brûlant de la paille ou des herbes à sa surface. Puis vient le temps des semailles et enfin, si le climat le permet, celui de la récolte.
À Charavine, on estime que les agriculteurs disposent d'une surface cultivable pouvant aller jusqu'à 200 hectares. On y fait pousser trois variétés de blé, l'amidonier, qui est la plus abondante des céréales, le blé tendre et enfin l'engrain, une variété primitive et fragile.
D'autres espèces, comme l'orge et le pavot, viennent compléter cette gamme de production, mais dans des proportions plus modestes.
Mieux vaut ne pas goûter ces pommes étant donné leur âge. Rendez-vous compte, elles ont près de 4700 ans et pourtant, elles sont encore facilement reconnaissables.
Ces fruits nous rapprochent presque familièrement des hommes et des femmes de cette époque lointaine. Ils témoignent également de leur mode d'alimentation, pour partie lié à la cueillette.
En effet, la cueillette fournissait un régime varié, fait de fruits et de baies, issus de plantes, des buissons et des arbres. On cueillait soit pour se nourrir, soit pour se soigner, soit pour donner à manger à d'autres animaux domestiqués.
C'est notamment le cas des glands, retrouvés en grande quantité, qui étaient sans doute principalement utilisés pour nourrir les porcs élevés non loin du village.
Sur le site de Charavine, on cueille donc les pommes, les noisettes, les petits pois ou encore les bocs de hêtre. On ramasse également des mûres et des fraises.
Si la cueillette en elle-même ne présente pas particulièrement de gageure, la conservation des aliments constitue parfois un défi, puisque la plupart pourrissent en quelques jours, mais aussi car l'hiver est plus avare en fruits.
Ces pommes nous en apprennent justement un peu plus sur les méthodes de conservation. Ainsi, ces fruits étaient coupés en deux, puis séchés avant d'être stockés.
La problématique de la conservation ne concernait pas seulement les fruits et les légumes. La viande également était stockée en prévision de l'hiver. Pour cela, on pouvait utiliser différentes techniques comme le séchage, le boucanage ou le fumage. Ne vous en faites pas, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Certes, voici un poignard, mais au néolithique, il ne s'agit pas seulement d'une arme.
Le poignard en silex est en effet utilisé comme un couteau, notamment pour trancher des végétaux ou des viandes. Si les lames sont emmanchées selon différentes techniques et matériaux, le principe reste généralement le même.
Voici donc l'une des méthodes de fabrication d'un poignard à Charavine. Un fragment de bois, souvent du hêtre, est taillé à la hache pour faire une ébauche de poignée. Celle-ci est ensuite affinée avec des outils de silex, puis polie. On étend après sur le silex du brai, qui est une colle végétale naturelle.
La poignée de bois est posée dessus et ligaturée avec un rameau de sapin écorcé. L'étape suivante consiste à enrouler du bois de sapin sur le manche et à le maintenir à l'aide d'une ficelle fine.
Les grandes lames en silex qui garnissent ces poignards ne sont pas produites sur le site de Charavine. Elles proviennent de la région du Grand Précigny, située en Touraine, à plusieurs centaines de kilomètres d'ici.
C'est en effet dans cette région qu'affleurent des gisements de silex de grande qualité. Cette provenance lointaine montre l'importance des échanges au néolithique. Il existe sur de grandes distances de véritables chaînes d'importation et d'exportation entre les communautés qui pourraient être liées à la loi de l'offre et de la demande.
Et les silex ne sont pas les seuls objets transportés d'une région à une autre. À titre d'exemple, la perle cylindrique présentée en vitrine de l'autre côté de l'îlot est en ambre de la Baltique. De la même façon, les roches utilisées pour les haches ne sont pas extraites sur place, mais proviennent des Alpes. Que peuvent bien représenter ces boudins de fibres végétales tressés entre eux selon une structure rayonnante? Vous pouvez ici reconnaître le réseau dense d'un fond circulaire de panier. Il a été réalisé grâce à la technique de la croisée, encore utilisée aujourd'hui par les vanniers.
Ces paniers, extrêmement fragiles, ont rarement été conservés. C'est pourquoi ces restes constituent un témoignage exceptionnel du raffinement de l'artisanat au néolithique et plus particulièrement de l'art de la vannerie.
S'il n'est pas possible de reconstituer ce panier dans son volume initial, on sait en revanche qu'il était disposé au sol lorsque la maison dans laquelle il se trouvait a brûlé. Cela se voit notamment à ses bords calcinés.
Quant à sa fonction, elle n'est pas définie avec certitude. Il pouvait servir au transport, mais également au stockage de graines.
L'apparition de la céramique au néolithique se fait d'abord au Proche-Orient, dès le 8e millénaire avant notre ère. On pétrit alors l'argile à la main, avec un peu de sable, puis on la cuit afin de la faire durcir.
Pour la confection de céramique, le site de Charavine possède ainsi un avantage indéniable. L'argile se trouve en abondance, à quelques centaines de mètres seulement du village, en bordure de lac.
Cette argile est à la fois utilisée pour les céramiques, mais également pour maçonner les chapes des foyers dans les habitations.
Pour cuire ce matériau, les potiers de Charavine utilisent des fosses dans lesquelles ils font brûler pendant quelques heures des branches de diverses essences. Cette technique de cuisson, relativement peu efficace, car la chaleur n'était pas très élevée, ne garantissait pas des céramiques de bonne qualité.
Chauffées à seulement 600 degrés, exposées à des chocs thermiques, les céramiques éclataient ou se fendaient fréquemment.
De manière générale, les céramiques retrouvées à Charavine ont avant tout un aspect utilitaire et ne répondent pas à des préoccupations esthétiques.
On distingue ainsi trois grandes catégories de vases. Les plus grands servaient au stockage. Viennent ensuite les vases dits à cuire, qui sont de dimension moyenne.
Les potiers produisent enfin de la vaisselle de table. De petite taille, cette vaisselle possède une pâte plus fine, bien lissée, et ses formes sont variées.
L'analyse stratigraphique du site de Charavine, c'est-à-dire l'étude des différentes couches de terrain, a permis de montrer de grandes différences d'ordre typologique entre les céramiques du début et de la fin de l'occupation du site, ce qui a permis d'établir une première datation de ce peuplement. Pour en savoir plus à ce sujet, appuyez sur la touche verte. En archéologie, la stratigraphie est une discipline essentielle. C'est grâce à cette analyse du contenu des strates du sol, de la plus récente à la plus ancienne, que l'on peut déterminer quelles activités humaines sont liées au sol étudié et dans quel ordre elles se sont éventuellement succédées. Pour les archéologues, la céramique présente dans les sols constitue un indice majeur quant à la datation des sites.
Il faut dire qu'il s'agit d'un type d'objet courant qui se conserve bien et que l'on retrouve souvent lors des fouilles.
C'est d'ailleurs grâce à l'étude des céramiques du site des Baigneurs, initiée lors des trois sondages réalisés en 1921 par le préhistorien Hippolyte Müller, que la première occupation a été datée du néolithique.
La datation précise du site entre moins 2669 et moins 2592 a quant à elle été permise par la dendrochronologie, qui est l'étude des cernes de croissance annuelle du bois, visibles sur la section d'un tronc d'arbre.
Les mêmes méthodes ont été appliquées pour le site médiéval. La datation des différents sites du lac de Paladru est importante, puisqu'elle permet, par comparaison, de dater d'autres sites aux céramiques similaires. Mais quel est ce drôle d'outil, doté d'un manche et de deux pics conservés à son extrémité? Serait-ce une sorte de piolet ou de grappin?
Ni l'un ni l'autre, puisqu'il s'agit en réalité de l'ancêtre de nos batteurs de cuisine. Et le plus intéressant, c'est que la fabrication de cet instrument n'a nécessité presque aucun travail ou effort.
En effet, pour le fabriquer, il suffit simplement de déraciner un jeune sapin, puis de dégager ses branches, à l'exception de celles situées à son sommet. Généralement, on conserve 4 à 5 branches.
Ne reste plus qu'à les couper à la bonne dimension, et votre batteur est prêt.
Pour s'en servir, on place le manche entre les paumes de ses mains. Le va-et-vient des mains qui se frottent permet de le faire tourner. Les 4 petites branches battent alors le contenu du récipient dans lequel on les a plongées.
Cela peut être du lait, ou bien des bouillies, des soupes. Pratique, n'est-ce pas?
Et ce n'est bien sûr pas le seul ustensile de cuisine retrouvé sur le site. Ont par exemple été retrouvées des plaques de cuisson qui permettaient de faire cuire des galettes de céréales préalablement moulées sur des vanneries.
On en voit d'ailleurs quelques-unes ici, certes carbonisées, mais qui constituent d'exceptionnels témoignages des modes d'alimentation d'alors.
Les arts de la table n'étaient pas en reste. Les occupants des lieux ne mangeaient pas nécessairement avec les doigts, mais avec des couverts.
Et oui, c'est ce que montrent justement les cuillères à peau et à bouche, également présentées dans la vitrine, et dont certaines ont gardé des traces de dents et d'usures, probablement liées au frottement dans les récipients. Certes, les mains de cette statuette en bronze sont manquantes. Cependant, on peut aisément deviner ce qu'elle tenait. En effet, la posture de ce personnage, un bras levé, l'autre baissé, son léger mouvement de jambes ainsi que sa chevelure et sa barbe, nous permettent d'identifier un certain Soukellous, le dieu gaulois de la nature et des récoltes. Traditionnellement doté d'un maillet et d'une petite amphore, Soukellous est souvent associé au dieu romain Sylvain.
Datée de la fin du IIe siècle et du début du IIIe siècle de notre ère, cette statuette a été retrouvée au lieu dit Bourjalière, situé au sud-ouest du lac.
Elle atteste donc de la présence sporadique d'hommes et de femmes aux abords du lac durant l'Antiquité romaine, essentiellement pour des raisons économiques.
De manière générale, le lac n'est jamais vraiment déserté. On a ainsi pu y retrouver un hameçon ainsi qu'un bracelet daté de l'âge du bronze final, soit vers 900-800 avant notre ère. Du néolithique à l'Antiquité, les hommes et les femmes continuent donc de voguer le long des rives du lac pour profiter de ses eaux poissonneuses.
Durant l'Antiquité tardive, les bords du lac sont essentiellement fréquentés pour des raisons agricoles ou pour la pêche.
En effet, le site est à l'écart des axes de communication, situés dans les vallées voisines ou près des cours d'eau. C'est le cas notamment de la villa gallo-romaine de Sermorens, un domaine rural antique composé d'un bâtiment principal et de bâtiments secondaires, localisé aux abords de l'actuelle ville de Voiron, à une quinzaine de kilomètres au sud du lac.
Les séries d'appliques émaillées qui vous sont présentées ici proviennent justement de Sermorens, qui est à l'origine un important domaine agricole, avant de devenir au IXe siècle le siège du comté du royaume de Bourgogne.
Destinées à décorer des ceintures, ces appliques viennent compléter la vaste gamme d'objets et de mobilier à vocation ornementale retrouvés dans la villa, qui témoigne ainsi de son faste entre le IIIe et le Ve siècle de notre ère.
Autour de l'an 1000, hommes et femmes s'installent à nouveau durablement près des berges du lac. Pour découvrir cette nouvelle aventure de peuplement, retournez au point de départ de la collection en suivant cette fois-ci son versant médiéval.